France Inter, franceinter.com.
Pour aujourd'hui, une histoire du violon. Le violon nous dit le désir de pureté qui vibre au fond de tout homme. Il nous permet de retrouver le chemin par lequel les choses peuvent s'assembler en nous et entre nous. Yehudi Menuhin. Mille ans d'histoire. Comment 400 grammes de bois, de crin, de boyaux et de vernis ont-ils pu bouleverser l'histoire de la musique comme l'a fait le violon ? Personne ne le sait. Mais depuis sa naissance, il y a plus de 4 siècles, il a fait le tour du monde. De la musique classique au jazz, de Vivaldi à Stéphane Grappelli en passant par les danses tziganes et hongroises, le folklore des Cajuns de Louisiane et même le rock, le violon est présent partout. Et s'il a fallu des siècles pour l'inventer, il n'a pratiquement plus changé depuis qu'il y a 450 ans, un luthier italien de Crémone, Andrea Amati, lui donnait le nom, la forme et le son que nous connaissons aujourd'hui. Celui qui avait fait le succès de cet instrument révolutionnaire quand au XVIe siècle, les princes de l'Église et les rois étaient prêts à dépenser des fortunes pour acheter les violons d'Andrea Amati.
Approchez, Madame Assise. Vous êtes à l'honneur. Monsieur Amati aussi est à l'honneur. Il est italien, il vient de Crémone. C'est lui qui nous a fabriqué ces remarquables instruments, destinés à notre chapelle. Nous les entendrons demain matin. Monsieur le cardinal y célébrera une messe.
La reine m'a dit que vous m'informeriez de votre mauvaise fortune. Vous avez des besoins. Importants ?
Important, c'est-à-dire majesté.
Remarquez, important ou pas, aujourd'hui le trésor royal ne pourrait rien pour vous. Vous auriez dû arriver avant Monsieur Amati. Le cardinal a prélevé le peu que nous avions pour payer ses violons.
Jean-Michel Molcou, bonjour.
Bonjour.
Alors, le menuet de Fritz Kreisler que l'on entend a été composé au XXe siècle, mais le son du violon que l'on entend aussi est celui d'un des tout premiers violons de l'histoire. C'est un violon fabriqué par Amati au XVIe siècle. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire du violon, que l'on retrouve aussi dans un CD-ROM dont vous êtes un des auteurs, c'est que l'instrument est le même qu'il y a 450 ans, mais d'une part, il s'est adapté à toutes les musiques et surtout, il n'a pratiquement pas changé du tout depuis cette époque.
C'est vrai, enfin, y a en effet une disparité très importante entre l'histoire qui amène au violon et l'histoire depuis qu'il a été fondé. On trouve des ancêtres du violon dans l'Inde 3000 ans avant Jésus-Christ qui sont extrêmement sommaires. Et puis on en trouve ensuite en Espagne et puis en Afrique du Nord. Et puis il est importé en Europe au moment des invasions.
C'était le rabab des Arabes,
voilà,
qui est encore joué aujourd'hui, absolument, qui est devenu le rebec, justement, quand il est arrivé en même temps que les Arabes en Europe.
Et puis ensuite, il y a toute la série des vielles, des lira da braccio, tous ces instruments qui ont conduit à arriver à un moment donné, et ça c'était au milieu du XVIe siècle, un instrument de perfection. Vous savez, dans toutes les histoires de l'art, il y a un moment de miracle. Et ça a été un moment de miracle, c'est-à-dire qu'un luthier, tout d'un coup, a réuni tout ce qu'il y avait de mieux en matière de proportion, d'épaisseur de bois, de longueur, de poids, pour fabriquer cet instrument. Alors, on en trouve la première trace sur les peintures vers 1530, dans des tableaux de Gaudenzio Ferrari. Et puis, le premier compositeur qui utilise véritablement le violon dans ses compositions, c'est Claudio Monteverdi dans son opéra Orfeo.
Et puis on en trouve à la cour des rois de France, hein, François Ier, je crois que c'est la première notion ou mention du violon hein, dans un document écrit. Et tout ça donc à partir d'un violon inventé à Crémone, donc par Andrea Amati, et perfectionné par ses successeurs, dont le plus célèbre d'entre eux, le plus célèbre représentant de cette école de Crémone, dont les violons valent aujourd'hui des fortunes.
Montrez-moi le Stradivarius.
Ils se ressemblent tous plus ou moins.
Vous faites erreur. Le voilà. C'est un très beau spécimen. Ça avance ?
Là, je crois que c'est la première fois que je vois une machine acoustique aussi parfaite. C'est époustouflant.
C'est un violon sacré, hein, messieurs. Le mariage parfait entre la science et la beauté.
Et c'est un extrait des Quatre saisons de Vivaldi, joué par Joshua Bell sur un Stradivarius de 1713. Qu'est-ce qui fait, Jean-Michel Molcou, du Stradivarius, vraiment le sommet au fond du violon ? Ça vaut des fortunes aujourd'hui.
Antonio Stradivari a été le luthier qui a canonisé l'instrument.
Petite précision, vous dites Stradivari parce que c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom.
Pourquoi est-ce qu'on dit Stradivari ?
Parce que c'est la latinisation de son nom ainsi qu'il était écrit dans sur ses étiquettes.
Oui. Mais les étiquettes, c'est ce qu'on mettait, c'est ce qu'un luthier mettait à l'intérieur du violon.
Absolument.
Avec le lieu et avec son nom en latin.
On dit un Stradivarius, mais on dit un instrument d'Antonio Stradivari.
D'accord. Voilà.
C'est lui qui a canonisé l'instrument, c'est-à-dire que c'est lui qui lui a donné ses proportions parfaites à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe. Et depuis, tous les luthiers de toutes les générations, qu'ils aient été français, anglais, allemands, et tous les luthiers contemporains ont copié les modèles de Stradivari. C'est-à-dire, ils ne se sont pas du tout cachés. Ils ont cherché à retrouver ce parfait équilibre. Alors, dans l'histoire du violon, il y a d'autres noms tout à fait essentiels qui ont dominé, je dirais, la production des violons. Ils viennent tous de Crémone. C'est aussi bien les Guarneri del Gesù que les Amati, les Bergonzi, les Ruggieri. Enfin, beaucoup d'instruments italiens qui ont fait de cette période crémonaise une période de miracle, comme il en existe d'autres dans l'histoire de l'art.
Ils viennent tous, enfin bon, d'autres régions, il y a Brescia par exemple, mais aussi d'autres villes européennes,
il y a Milan,
il y a des luthiers,
et à Turin,
même en dehors de l'Italie. Mais pourquoi est-ce que c'est né à Crémone ? Dans son livre qui a été réédité, La légende du violon, Yehudi Menuhin dit que c'est aussi parce que à Crémone, on trouve le meilleur bois possible. Il faut peut-être rappeler comment est fabriqué le violon. Pour ce qui concerne le bois principal, c'est l'épicéa, hein, qui avec lequel on fabrique les tables d'harmonie, les barres d'harmonie. Ce qu'on appelle aussi, c'est une chose extraordinaire, j'aimerais bien que vous nous expliquer en quoi c'est important, Jean-Michel Molcou, l'âme. Parce que c'est une des 70 pièces du violon, mais on ne la voit pas, or c'est une des plus importantes.
Alors, les deux bois qui permettent de fabriquer un violon sont, comme vous l'avez dit, l'épicéa, mais aussi l'érable. L'âme, c'est la petite pièce de bois qui est invisible, qui permet de transmettre les vibrations de la table au fond. Et de sa position naît ce qu'on appelle le réglage de cet instrument, donc sa projection sonore et la qualité de ses timbres. Et c'est une opération relativement délicate qu'un luthier doit faire pour donner à son instrument les meilleures caractéristiques sonores. Alors pourquoi Crémone ? Eh bien, pour des raisons essentiellement historiques, c'est que dans cette ville existaient des ébénistes et notamment des incrustateurs de bois particulièrement célèbres depuis longtemps. Et c'est dans cette ville-là que se sont installés ceux qui allaient devenir les très grands luthiers. Mais ce sont aussi là que sont venus certains des compositeurs et virtuoses du violon de l'époque. Car cette histoire du violon, elle est absolument inséparable des virtuoses, des compositeurs et des luthiers. C'est un travail entre eux qui a fait que le violon est devenu ce qu'il est devenu et que la musique pour violon est devenue ce qu'elle est devenue.
Et devenue en un siècle, eh bien, l'instrument préféré de tous les grands compositeurs.
Moi, j'avais un rêve, et ce rêve était de devenir comme Mozart. À cela, mon père répondait, pourquoi veux-tu être un singe savant ? Pour être traîné dans toute l'Europe comme un animal de foire ?
Ah, Mozart. Il est remarquable, Majesté.
Cet homme avait composé son premier concerto à 4 ans. Sur le papier, ça n'avait l'air de rien.
Et c'est le concerto pour violon numéro 5 de Mozart, à une époque où le violon était devenu, Jean-Michel Melcou, l'instrument de base des grands orchestres. Ce n'était pas le cas au début. Quand il arrive dans les cours de François Ier et de Charles IX, au XVIe siècle, il est surtout destiné au divertissement, à la danse. C'est un instrument populaire.
C'est vrai, c'est un instrument qu'on aperçoit dans des représentations de fêtes populaires, de danses villageoises. Et beaucoup de compositeurs, même au XXe siècle, lui ont gardé cette tradition et en sont allés d'ailleurs souvent, pour enrichir son répertoire savant, chercher des danses originales de différentes contrées du monde. C'est une de ses vraies racines. C'est un instrument léger, facile à porter et je dirais qu'on peut emporter avec soi à tout moment.
Enfin, sauf quand c'est un Stradivarius aujourd'hui. Hein. mais alors, quand est-ce qu'il est devenu justement, quand est-ce qu'il était destiné à la musique savante, à la musique de cour? C'est Lully, je crois, qui l'introduit notamment à la cour de France comme instrument de ses concerts.
C'est vrai, mais il devient un instrument véritablement soliste avec déjà Vivaldi, qui est un magnifique violoniste, qui a laissé plus de 400 concertos pour violon, et puis d'autres grands musiciens italiens comme Locatelli, qui ont fait beaucoup progresser sa technique, ou Corelli, et il devient alors un instrument soliste. Son répertoire, sa tessiture même, lui permettent d'avoir cette voix aiguë qui lui permet de passer au-dessus des autres. Et donc ça lui donne assez naturellement un rôle de diva. Donc le violon a inspiré tous les compositeurs à partir de cette époque. Celui qui reste probablement le plus important reste Jean-Sébastien Bach, qui a écrit 6 sonates et partitas pour violon seul, qui a donné toutes les lettres de noblesse à cet instrument et dont des générations de compositeurs se sont inspirés.
Et plus tard au 19e, évidemment, les compositeurs romantiques, etc. Alors un violon qui est un instrument de base et du même coup, le violoniste devient aussi un des principaux éléments de l'orchestre et parmi eux le plus grand virtuose de l'histoire du violon, Paganini, violoniste admiré par tout le monde, sauf par Napoléon, qui n'aimait pas la musique, mais qu'il avait fait quand même venir, Paganini, à Erfurt en 1808 pour épater le tsar Alexandre Ier.
On nous promène, Talleyrand. Ça fait une semaine que nous sommes ici, on ne fait que s'amuser, enfin si on peut appeler s'amuser le fait d'entendre Paganini.
Est-ce qu'il serait allergique à la musique italienne?
Il préfère la musique militaire.
Militaire?
Oui.
Vraiment.
Sire, quelle merveilleuse idée a eu votre sœur de nous envoyer Paganini. Il est à la musique ce que vous êtes au monde, un révolutionnaire.
C'est Yehudi Menuhin jouant un des célèbres caprices de Paganini, dont on a évidemment plus les enregistrements puisqu'il était, il s'est fait connaître au début du XIXe siècle, mais dont on a des traces puisqu'il était en même temps violoniste et compositeur Paganini. Vous parlez d'une révolution en ce qui le concerne. Il y a un avant et un après Paganini, dites-vous, Jean-Michel Molcou, dans ce CD-ROM dont je parlais.
C'est vrai, Paganini a révolutionné la technique de l'instrument. Il a reculé ses limites jusqu'à un point que plus personne n'a dépassé depuis. C'est-à-dire qu'il en a compris toutes les possibilités harmoniques, polyphoniques. Il a réuni tout l'acquis de ses prédécesseurs et il a fait évoluer sa technique et sa virtuosité. Ce qui a suggéré aux compositeurs du 19e puis du 20e siècle un nombre d'œuvres absolument considérables qui ont permis de dévoiler toutes les possibilités de l'instrument en matière de timbre, de technique, de virtuosité. Et Paganini, pendant longtemps, ne révélait pas du tout ses secrets techniques, ce qui fait qu'on a mis au moins une génération à réellement comprendre ce qu'il avait fait. Et ça n'est qu'après qu'on a véritablement réalisé que c'était un violoniste prodigieux. Il était d'ailleurs probablement prédisposé anatomiquement à ce prodige. Il avait ce qu'on appelle une maladie de Marfan, ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire, qui lui permettait des extensions et d'utiliser ses mains de façon tout à fait extraordinaire. Et il a probablement profité de cette aptitude physique particulière, alliée à son génie personnel, parce que vous avez beau avoir une hyperlaxité ligamentaire, vous ne jouez pas pour autant très bien du violon. Et cette conjonction a fait qu'il est devenu celui qui a révolutionné la technique de l'instrument. Et depuis, plus personne n'a surpassé cela.
Mais lui-même composait, donc vous
il
le
jouait
rappelez,
d'abord.
Il jouait, mais
il jouait surtout ses compositions.
Aussi. Est-ce que vous êtes violoniste vous-même, Jean-Michel Molcou? Est-ce que c'est difficile de jouer du Paganini? Est-ce que ses compositions justement faisaient en sorte que pratiquement personne ne pouvait les jouer?
À l'époque, c'est vrai. Maintenant, non. Ça reste extrêmement difficile. C'est accessible à des gens qui travaillent beaucoup et qui ont un haut niveau instrumental. Il y a des choses plus accessibles que d'autres, mais il y en a qui restent parmi les œuvres les plus difficiles jamais écrites pour l'instrument.
En tout cas, ce qui est curieux, c'est qu'au fond, on n'entend pas parler, on entend beaucoup parler du violon, on entend du violon dans toutes les grandes compositions avant lui et bien sûr après lui. C'est pratiquement le seul nom qui ressort comme si, au fond, avec lui, c'était presque le premier virtuose.
Non, ça n'était pas du tout le premier virtuose. Les premiers virtuoses compositeurs, ils remontent bien entendu au XVIe et au XVIIe siècle. Et Paganini en est l'héritier. Il l'a transmise ensuite à d'autres virtuoses compositeurs. Il y a des très grands noms au XIXe siècle, comme Wieniawski, comme Sarasate, auxquels tous les plus grands compositeurs ont dédié des œuvres. Mais ces musiciens qui étaient capables à la fois de composer et de jouer avaient pour but essentiellement de mettre en valeur leur brio et leur sensibilité.
Alors vous en évoquez un autre, parce qu'il y a dans votre CD-ROM une quantité de personnalités qui ont joué un rôle dans l'histoire du violon, des personnages, que ce soit des luthiers, que ce soit des compositeurs, que ce soit justement des violonistes. Et parmi eux, après Paganini, vous placez quelqu'un qui, selon vous aussi, aurait révolutionné l'histoire du violon, très connu de tous les violonistes, beaucoup moins du grand public. Il s'appelle Jascha Heifetz et on l'écoute ici jouer la danse du sable de Khatchaturian en 1954. C'était la danse du sabre de Khatchaturian, jouée par Jascha Heifetz. Vous dites de lui que c'est un véritable phénomène également. Il définit les règles du violon moderne, dites-vous, Jean-Michel Molcou.
Mais c'est vrai, parce que Jascha Heifetz a
bouleversé... Alors que personne, enfin le grand public, les non-mélomanes que je suis, les profanes, ignorent son
oui,
nom.
Mais tous les musiciens, spécialement les violonistes, ont une véritable vénération pour Heifetz, parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné les règles du jeu. comme Paganini a révolutionné les règles de la technique, lui, il a révolutionné les règles de l'interprétation et notamment de l'exigence. C'est-à-dire qu'après Heifetz, on n'a plus pu jouer les choses de façon, je dirais, hasardeuse. Il a mis à un très très haut niveau les normes de perfection technique, les normes de rigueur en matière de respect du texte. Et tous les grands interprètes d'aujourd'hui se mesurent encore aux enregistrements de Heifetz des années 30, des années 40 et des années 50. C'est un violoniste qui était né en Russie et qui est parti aux États-Unis dès 1917. Et il a vraiment généré des générations et des générations d'interprètes qui ont été ou non directement ses élèves, bien sûr, mais qui ont essayé de copier sa maîtrise et son niveau de perfection.
Alors, on l'entendait jouer justement la danse du sable de Khatchatouryan, comme si, au fond, le violon, en ce 20e siècle, revenait un peu à sa destination d'origine, qui était la danse. Parce que, évidemment, là, on est loin de Mozart, on est loin de Beethoven. C'est aussi l'instrument, vous le disiez, on ne peut pas ne pas penser évidemment aux tziganes, aux juifs, l'instrument au fond des nomades, Jean-Michel Molcou.
Oui, c'est vrai, des gens qui n'avaient pas de racines ou qui devaient être amenés éventuellement à quitter très rapidement leur foyer.
Et dont le seul bagage était un violon.
Voilà.
C'est petit.
Mais Heifetz a enrichi le répertoire par de nombreux arrangements et transcriptions qu'il a faites lui-même. Et la danse du sabre en est une, parce qu'elle n'est pas écrite initialement pour le violon.
Mais justement, ça c'est le violon, il n'a pas bougé, dites-vous, depuis 450 ans, depuis qu'il est né à Crémone, autour de 1550, et pourtant il s'adapte quasiment à toutes les musiques.
Oui, ou c'est toutes les musiques qui s'adaptent à lui.
Toutes les musiques qui sont nées depuis.
Et qui s'adaptent à lui, c'est-à-dire qu'on profite et de son registre et de ses possibilités techniques pour lui faire dire toutes sortes de musiques, comme le jazz, comme le rock, comme... Mais sa principale vocation, hormis la vocation populaire, est une vocation de musique savante et classique.
Oui, mais alors justement, vous n'en parlez pas dans ce CD-ROM qui est parfaitement fait, mais j'ai cherché vainement le nom de Stéphane Grappelli. Je vous propose d'ailleurs d'écouter celui qui a introduit le jazz, plutôt le violon dans le jazz. On l'écoute, Stéphane Grappelli, en 91, au micro de Pierre Bouteiller.
Les meilleurs chanteurs de blues noir ne chantent pas des airs d'opéra, non ? C'est pour ça que j'essaye de faire au violon ce que ces chanteurs noirs nous donnent avec leur voix et les instrumentistes aussi. Je ne suis pas astreint comme les classiques à jouer ce qu'il y a d'écrit. Mais dans le jazz, c'est ce que même Menuhin m'a dit, que je retombais toujours sur mes pieds. C'est normal, je me trompe comme tout le monde, mais il ne faut pas le faire voir.
C'est Night and Day de Cole Porter, joué par Stéphane Grappelli et Yehudi Menuhin, qui, dans son livre, disait toujours qu'au fond, il reconnaissait dans le jazz un instrument aussi pour le violon, ou le violon comme un instrument qui s'adaptait parfaitement au jazz, Jean-Michel Molcou.
Mais c'est vrai, mais vous savez, le violon s'adapte à toutes les musiques. Or, la musique de jazz fait appel à des mélodies qui collent parfaitement à sa tessiture, à son caractère éventuellement mélancolique ou joyeux. Et Menuhin avait bien compris que c'était une façon aussi de toucher un public plus large que de s'intéresser au jazz. Vous disiez que vous n'aviez pas trouvé le nom de Stéphane Grappelli dans notre CD-ROM, eh bien c'est exact, parce que ce CD-ROM n'était destiné qu'au violon classique.
Non, mais c'est pas un problème, parce qu'il est parfaitement fait. Mais en tout cas, on voit le nom de Yehudi Menuhin. Quand on évoque le violon dans le jazz, ou le jazz avec le violon, c'est peut-être ce qui rend cette musique universelle, même fédératrice. On l'a cité au début de l'émission, il y a cette très jolie formule de Menuhin parlant du violon. Il nous permet de retrouver le chemin par lequel les choses peuvent s'assembler en nous et entre nous. Vous l'avez bien connu, Menuhin. Enfin, vous l'avez rencontré.
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'avais été reçu chez lui. Je lui avais fait plusieurs interviews, notamment pour ses 80 ans. À Londres, c'était un homme tout à fait extraordinaire. Mais ça paraît même banal de le dire, mais c'en était saisissant. La façon dont il vous contait les choses en plusieurs langues, car il parlait magnifiquement 5 ou 6 langues, vous plongeait immédiatement dans le moment où il l'avait vécu. Et il avait rencontré tout ce qui était important dans le monde musical en 70 ans de carrière. Il avait fait le tour du monde 50 fois, rencontré les plus grands chefs d'État. Il avait en plus une vocation humaniste. C'était un messager de la paix. C'était un immense musicien. Et c'est probablement quelqu'un que des millions de mélomanes à travers le monde ont associé au nom du violon.
On le voit dans ce livre, dont je citerai les références tout à l'heure, en compagnie de Ravi Shankar, comme s'il retrouvait aussi les origines du violon qui vient de l'Inde, c'est là où a été inventé l'archet, et donc le violon, Jean-Michel Molcou.
Il avait en effet cherché à retrouver les racines à la fois de la musique pour le violon, en rencontrant des tziganes, et d'autres traditions culturelles comme celle de l'Inde.
Alors Yehudi Menuhin, qui est mort il y a 10 ans, le 12 mars 1999, avec laquelle je vous propose de conclure cette émission quand il expliquait pourquoi il avait choisi le violon. C'était au micro de Jacques Chancel en 1971.
Le violon, comme je dis toujours, est une prolongation de la voix. C'est l'instrument la plus proche de la voix, l'instrument le plus intime, l'instrument qu'on porte avec soi, l'instrument qui est le plus sensible aux sensations, à l'émotion personnelle. C'est donc un instrument en soi-même des plus beaux comme forme et qui appartient à l'âme.
Et c'est une danse hongroise de Brahms jouée par Yehudi Menuhin, dont les éditions Flammarion viennent de rééditer La légende du violon. C'était une émission du 10 mars 2009 avec Jean-Michel Molcou, qui est l'auteur avec Emmanuel Jäger et Frédéric Laurent d'un CD-ROM, Le violon des hommes des œuvres, véritable encyclopédie préfacée par Isaac Stern et Étienne Vatelot et rééditée en 2004 aux éditions Montparnasse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Saint-Germain ou la négociation de Gérard Corbiot, Le violon rouge de François Girard, Amadeus de Miloš Forman, disponible en DVD aux éditions Warner Bros. Et Napoléon d'Yves Simoneau, édité en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard, Frédéric Martin et Antoine Villioz. Une réalisation de Anne Kobilac.
Thank you.